de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Aujourd'hui, c'est la reprise de l'émission Grain de sable qui a lieu le jeudi tous les 15 jours. Et nous avons proposé, donc, pour cette rentrée très active et très militante, n'est-ce pas, à Florent, Pierre et Laurane de venir nous parler des fameux procès qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Et qui concernent donc des militants, des activistes, on va dire. De l'environnement. On en parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. On va voir si effectivement on en parle beaucoup, mais si des choses se débloquent. Et donc, on va parler entre autres du procès du 2 septembre qui a eu lieu sur les décrocheurs du fameux portrait de notre président de la République, Macron. Nous allons parler du prochain procès du 7 octobre qui concerne un mouvement sur la publicité, donc les anti-pubs. Et puis, nous allons parler, de toute façon, manifestation, activité, mobilisation sur l'enjeu qui est aujourd'hui la transition écologique. Voilà. Alors aujourd'hui, pour nous parler de tout ça, il y a donc Laurane.
Bonjour.
Sur le plateau. Bonjour Laurane. Laurane, toi, tu fais partie des jeunes pour le climat. Comment ça s'appelle, n'est-ce pas, ce mouvement?
Youth for Climate.
Ah yes. Voilà. Nous accueillons aussi Florent.
Bonjour.
Florent est porte-parole du mouvement Alternativa.
Oui,
on
entre
va dire
autres,
ça comme
oui.
ça, entre autres. Hein. Donc, qui parlera du procès du 2 septembre. Hein. C'est plutôt toi qui a.
Non, moi, ce sera plutôt le 7 octobre parce que.
Il fallait que je me trompe, bien entendu, et c'est tombé sur plan. Et puis Pierre, voilà.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Donc Pierre fait partie des décrocheurs de portraits. Et donc Pierre nous expliquera quel était l'enjeu enfin, de cette action qui a eu lieu sur l'ensemble du territoire national. Hein. Il y a eu plusieurs portraits du président décroché. Pourquoi est-ce qu'il en est advenu? Et aujourd'hui, la répression sur ces différentes actions et mobilisations non violentes et pourtant jugée sans doute très radicale, voire très violente par notre gouvernement.
On va en parler.
Alors, on va reparler peut-être, représenter ces différents mouvements, Alternativa, les décrocheurs,
Youth for Climate.
En quelques mots, rappeler ce que sont ces mouvements et comment ils travaillent ensemble d'ailleurs.
Ouais, peut-être rapidement une genèse du coup. Mais sur Alternativa et ensuite sur ANV COP21. Donc je vais aller vite parce que je pense que c'est des choses qu'on a déjà beaucoup entendues, mais concrètement Alternativa c'est un mouvement citoyen qui naît en 2013 en Pays Basque, dans les alentours de Bayonne, et en fait qui part d'un constat en fait très simple, c'est qu'il y a une urgence climatique. Une urgence climatique qui va avoir des conséquences sur la vie sociale des 7 milliards d'habitants de la planète. Et en fait qu'on va avoir besoin d'actes forts et d'actes radicaux, très concrets, pour lutter contre ce dérèglement climatique. Et en fait, à ce moment-là, il y a un constat qui est que l'ensemble des 196 États de l'ONU, en fait, du processus des COP, qui sont les sommets pour le climat au niveau onusien, ne font encore... presque rien sur cette question climatique, ou en tout cas que leurs actions sont largement insuffisantes. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le fonds vert, alors je vais aller assez rapidement là-dessus, mais c'est un fonds qui sont censés financer les pays les plus riches de la planète, c'est un fonds de 100 milliards d'euros qui est censé être financé par les pays les plus riches pour soutenir les pays les plus pauvres de la planète sur la question de l'adaptation au dérèglement climatique. Voilà, et du coup, étant donné qu'il y a une inaction globale de la plupart des gouvernements mondiaux et notamment les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre, donc là on parle de la France, on parle du Canada, on parle des États-Unis, on parle de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, du Japon, à ce moment-là, on se dit si les politiciens de ces pays-là ne font rien, c'est aux citoyens de passer à l'action. Et du coup, Alternativa naît à ce moment-là, avec une volonté de rendre visibles les alternatives au dérèglement climatique sur la majorité des territoires.
Voilà. Action d'environnement COP 21, on pourrait dire que c'est une...
Voilà, c'est Alternativa.
Là, c'est Alternativa. Mais quand on va sur le site d'Alternativa, il y a tout de suite une entrée aussi sur Action d'environnement COP 21. C'est pas, le, on va dire, un sous-groupe ou une mode un mode d'action d'Alternativa. C'est des choses différentes.
Alors justement, bah, c'est une super transition. Et voilà, donc du coup, l'idée d'Alternativa, c'est de dire que c'est la jambe positive. C'est-à-dire que bah, c'est bien de dire que des gens ne font rien, mais si nous-mêmes, on est juste dans de l'opposition et qu'on ne fait rien non plus, bah, on arrive sur quelque chose de complètement nihiliste. Et l'objectif, du coup, c'est de se dire, bon, bah voilà, on propose quelque chose, mais par contre, en même temps, et c'est là qu'ANV COP 21 intervient, et bah, on va quand même se battre contre l'existant qui n'est pas compatible avec les questions de dérèglement climatique. Et du coup, ANV COP 21 naît quelques semaines avant la COP 21, donc en 2015 à Paris. Et il naît, du coup, il est issu en fait de discussions entre beaucoup de collectifs, donc entre ATTAC, donc bien connu pour cette émission, entre Alternativa, entre les Amis de la Terre, qui est la plus grande fédération écologiste mondiale, entre 350.org, qui est un gros collectif de désobéissance civile sur le climat au niveau anglo-saxon à l'époque, et ainsi de suite. Et toutes ces personnes-là se mettent d'accord pour se dire que en plus de proposer et en plus de construire des alternatives au dérèglement climatique, il faut qu'on ait un mouvement mondial non-violent, déterminé pour le climat, qui mène des actions de désobéissance civile contre les décideurs internationaux, mais également contre les grandes entreprises responsables de la principale, des principales émissions de gaz à effet de serre.
D'accord. Donc là, Alternativa, Action non violente COP 21... On va passer aux jeunes. En fait, vous êtes tous jeunes. Mais, bon, c'est une manière de dire les choses.
Oui, donc moi, je m'appelle Lorraine. Je participe au mouvement des jeunes pour le climat, donc Youth for Climate à Lyon. Donc Youth for Climate, c'est un mouvement qui est né de la jeune suédoise dont tout le monde parle, Greta Thunberg, avec le mouvement donc Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir, où elle a commencé à lancer cette possibilité en fait de faire grève tous les vendredis. Et là, je pense qu'il y a eu quelque chose qui a démarré, où les jeunes se sont dit en fait on peut aussi faire quelque chose à notre échelle, et ça a été un déclencheur dans tous les pays. De se dire ok, même si on a 16 ans, et ben on peut tout à fait aller faire quelque chose. Et donc à Lyon, il y a une branche Youth for Climate qui s'est créée, et depuis on est donc un collectif. On apprend tous ensemble une nouvelle manière d'inventer des actions. On organise les marches pour le climat, notamment la troisième marche mondiale dont on aura l'occasion de parler plus tard. Et on organise différents types d'actions en fait, pour pouvoir agir à différents niveaux de ce qui nous pense, de ce qu'on trouve utile, on va dire, au moment T. Donc on est en formation, mais assez actif.
Je parlais de jeunes parce que c'est vrai que ça touche aussi... ça touche essentiellement, mais pas que, hein, je pense, hein, bien sûr des jeunes étudiants, mais aussi des lycéens. Donc on a une prise de conscience
très, très
des
jeune.
Collégiens, des oui. lycéens. Donc c'est pour ça que je disais les jeunes, mais pour distinguer, c'est quand même une première fois, je pense, hein, qu'on a autant de mobilisation en dehors d'un sujet qui toucherait proprement l'éducation, etc. Je crois que c'est la première fois, il me semble, hein, que des jeunes comme ça, collégiens, lycéens, s'organisent pour parler autre chose que l'éducation, mais de leur avenir global, en fait. Oui.
C'est surtout qu'en fait, on se trouve vraiment acteurs de ce dont on parle. En fait, on est réellement au centre du débat, puisqu'on parle de choses qui vont se passer quand nous, on aura une trentaine, une quarantaine d'années. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'on se sent les plus concernés par tout ça, et qu'on se sent le devoir aussi de changer les choses dès maintenant. Tant qu'on a la chance, on va dire, de ne pas être encore dans un système qui nous emprisonne un petit peu. Une fois qu'on a des choses qui nous retiennent, on va dire, dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir agir, alors que là, on a quand même la chance d'être très libre, en fait, dans nos modes d'action et de pensée.
Et justement, dans les modes d'action, tu évoquais donc l'organisation des marches. Est-ce qu'il y a des choses qui se font peut-être en plus petits groupes ou même au niveau justement des lycées.
Ouais, exactement. En fait, on a vraiment plusieurs types d'actions. Notamment là, en cette rentrée, on essaye vraiment de créer un réseau de référents par établissement. En tout cas, nous à Lyon, où l'idée c'est vraiment d'avoir une branche, on va dire un petit peu Youth for Climate, qui se développe dans chaque établissement et de pouvoir toucher un maximum de jeunes de tous les milieux, de tout bord politique, etc. Parce que c'est un problème qui nous concerne tous, et donc on est vraiment dans cette recherche de pouvoir parler à toutes et tous.
Florent, je te voyais réagir au propos de... Je suis en train de chercher ton prénom.
Lorane.
Et donc, à toi la parole, Florent.
Oui, déjà, juste, tu nous voyais réagir, mais Pierre le faisait aussi. Ça, c'est nos gestes qu'on utilise en réunion pour montrer qu'on est d'accord, voilà, et qui permettent de faciliter et qui font partie.
On l'a vu sur la place aussi, sur un certain nombre de. D'organisation et de mobilisation. Hein. Je suis en train de chercher le nom de cette mobilisation.
Debout.
Ouais.
Oui, voilà. Ouais. Moi, c'est là que je les ai découvertes aussi. Ouais.
C'est un autre mode d'échange aussi.
C'est également des gestes qu'on utilise à Youth for Climate dans nos assemblées générales.
Je t'ai coupé la parole, je la redonne.
Pas de souci. Non, mais je disais juste, enfin, moi, je trouve que c'est une des parties importantes. Je me présenterai juste après, mais. Je trouve que c'est une des parties importantes de notre collectif et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire aussi, de diffuser ces méthodes qui en fait viennent du Pays Basque, de Bici, qui sont des méthodes d'intelligence collective qui permettent d'avancer plus vite et de faire les choses efficacement. Et Youth for Climate les utilise parce que les premières réunions qu'ils ont faites, ils les ont faites à l'Alternative Bar et on les accompagnait en leur proposant ces méthodes qu'ils ont adoptées quand ils ont vu l'efficacité de ces méthodes. Et dans plein de collectifs à Lyon, on les retrouve, pas que à Lyon d'ailleurs, et c'est vrai que ça aide beaucoup à avancer. Pour ma part, du coup, donc Florent, moi je suis donc membre d'Alternativa NV Rhône. Pour compléter un tout petit peu ce que Pierre avait dit tout à l'heure sur Alternativa et ANV, en fait, c'est que c'est un collectif qui fonctionne en réseau de manière décentralisée, et donc il y a des branches un peu partout en France, et donc nous il y a la branche à Lyon, où on a décidé, comme ce qui est fait au national, de fusionner Alternativa et ANV qui ne forment qu'un seul collectif. Au national, c'est pareil. Après, dans chaque ville, on peut retrouver des collectifs, enfin des branches juste d'ANV, juste d'Alternativa, ou les deux séparément, mais nous, on est fusionnés. Donc, je suis membre de ce collectif. Mais avant ça, j'ai été depuis un an impliqué dans toutes les mobilisations climat et on l'a vu, depuis un an, ces mobilisations gonflent et je suis rentré un peu comme beaucoup par les marches pour le climat. Depuis, j'ai fait la première marche en septembre, le 14 septembre, il me semble. Et donc, je me suis un peu investi à travers ça. J'ai découvert l'anti-pub, ce qui fait que je suis là aussi aujourd'hui. Donc, j'ai fait du recouvrement avec Plein la vue et RAP, qui est résistance à l'agression publicitaire. On allait faire du recouvrement dans Lyon pour sensibiliser à l'espace que prend la publicité dans les rues de Lyon et qui va prendre de plus en plus d'espace si on laisse faire. Et ensuite, donc, j'ai organisé en partie les marches pour le climat quand j'ai vu ce que la première avait donné et l'engouement que ça avait suscité. Et par la suite, j'ai vu qu'autour de tout ça, il y avait Alternativa NV Rhône qui était beaucoup présent, notamment par le fait qu'on a le bar, l'Alternative Bar, où il se passe beaucoup de choses. Et où on accueillait beaucoup de réunions, où on faisait du stockage logistique aussi, et où on fait toujours pour ces marches-là. Et donc, en découvrant ce collectif, je me suis rendu compte qu'il traitait donc de l'urgence sociale et climatique qui nous importe à tous, et avec des méthodes intéressantes, comme on en parlait juste avant. Et donc, du coup, je me suis investi là-dedans. Et aujourd'hui, je m'occuperai notamment d'organiser le procès de l'anti-pub dont on va reparler du 7 octobre.
Alors, en fait, moi j'ai l'impression, mais je pense que Lydie aussi, que les choses s'accélèrent là depuis un an, qu'il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place par les militants, enfin je ne sais pas quel terme vous préférez, activistes, militants, citoyens engagés, voilà, moi je n'ai pas de préférence, en fait, je trouve qu'on est des... Voilà. tout ça, voilà, ça existe, c'est bien. Et donc, mais j'ai l'impression que quand même, depuis effectivement la première marche, et depuis l'arrivée aussi de cette jeune lycéenne, je ne sais pas si elle est lycéenne d'ailleurs.
Greta Thunberg, oui, peut-être fin collège, début lycée. Voilà, c'est peut-être début lycée.
Elle est peut-être même un peu plus, voilà. Mais quand même que les choses s'accélèrent, soit dans l'organisation effectivement d'action, mais aussi du coup parallèlement l'action qui engendre des répressions et en particulier tous ces procès. Parce que quand on était tout à l'heure là avant la préparation du plateau, effectivement on a parlé des gilets jaunes et de la répression visible des gilets jaunes, et d'ailleurs on en a parlé ici avec des gilets jaunes, avec aussi des membres d'Alternativa Gilets Jaunes, hein, puisqu'on avait fait une émission sur la convergence des luttes. Alors, c'est peut-être un grand terme, mais...
Et avec Youth for Climate aussi. D'accord.
Oui, il y avait Marin pour votre mouvement. Et donc, on avait beaucoup parlé de cette répression, mais on n'avait pas conscience que ces actions dites pour l'instant non violentes, très symboliques, mais il va falloir expliquer en quoi c'est symbolique et en quoi c'est important... ce que ça représente, hein, décrocher un portrait présidentiel.
Voilà. Oui, puis revenir à l'époque aussi, les médias avaient quand même une forte tendance à opposer des vilains gilets jaunes et des gentils marcheurs pour le climat. Et là, on sent que voilà, ceux qui se battent pour le climat sont plus forcément considérés comme si gentils que ça.
Ben non, parce que les procès se multiplient, hein, à Lyon. Mais ailleurs, bien sûr, Paris, Lyon, il y a eu aussi, c'est quoi, c'est Annecy, c'est pas Annecy,
Bourg-en-Bresse, Strasbourg, qui sont déjà passés.
Il y en a qui vont arriver. Hein,
avec Orléans demain.
Voilà, les antipubes. Il y a aussi d'autres. Et donc, ça s'accélère quand même. Donc, je ne sais pas si c'est bien, finalement, qu'il y ait cette forme de répression judiciaire, puisque du coup, ça provoque quand même aussi une médiatisation, entre guillemets, mais je ne sais pas si elle est suffisante et si elle est de qualité, de toutes ces actions, de tous ces procès, finalement, de vos actions qui sont pourtant pas, voilà, non violentes. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de violence envers des personnes. Ce sont des actions dites quand même symboliques, mais qui sont jugées quand même extrêmement violentes, hein, finalement. Je ne sais pas. On parle par. On commence sur le mouvement des décrocheurs du portrait.
On peut en parler, oui. Mais peut-être brièvement, ce qu'il faut avoir en tête là dans toute la discussion qu'on est en train de mener, c'est qu'on parle d'urgence climatique et la manière dont en parle aujourd'hui le gouvernement et encore beaucoup de médias malheureusement. En fait, on parle de quelque chose qui est déjà là. Et je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que c'est pas demain. Autant lorsque René Dumont en parlait peut-être en 74 pour ceux qui étaient déjà là, c'était demain. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Et du coup, concrètement, en France, des personnes qui se font exclure de leur logement ou qui peuvent pas en fait se payer le chauffage parce qu'en fait le prix de l'énergie augmente, c'est une conséquence directe du dérèglement climatique. Donc des gens qui ont froid l'hiver chez eux ou qui crèvent de chaud l'été parce qu'il n'y a pas d'isolation, c'est les conséquences directes du dérèglement climatique. Et en fait, ça, faut l'avoir en tête. Et en fait, c'est aussi couper l'herbe sous le pied, justement, au gouvernement qui dès octobre, en fait, a voulu mettre dos à dos le mouvement des Gilets jaunes et les mouvements climatiques. C'est-à-dire, en fait, qu'il n'y a pas à diviser, en fait. Enfin, c'est le but d'un gouvernement libéral de vouloir diviser. Mais en fait, la réalité, c'est que... moi, j'ai participé, enfin, j'ai été nombreuses fois dans le mouvement des Gilets jaunes et je suis depuis 4 ans activiste au sein d'Alternativa et d'ANV. Mais en fait, j'ai vu des gens se croiser. En fait, à Alternativa, je vois souvent des Gilets jaunes. Quand je vais sur les manifs Gilets jaunes, je vois souvent des gens d'Alternativa. Enfin, et du coup, il y a une opposition qui est juste créée médiatiquement, mais qui, dans les faits, ne l'est pas. Et en plus de ça, qui est dangereuse parce qu'en fait, elle met à mal ce qui est en train de se passer actuellement. Ça, c'était voilà, pour recadrer, vraiment pour dire en fait qu'on est déjà dedans, en fait. Et ensuite, pourquoi ces décrochages de portraits? En fait, ça part d'un mépris. Ça part d'un mépris du gouvernement en place. Ça part d'un mépris d'Emmanuel Macron et de son feu ministre de l'écologie, M. De Rugy. C'est-à-dire qu'il y a des Français, M. Macron le demandait encore à Colmar ou à Strasbourg récemment, il disait qu'il avait besoin de l'énergie, de la mobilisation de la jeunesse pour le climat, et que c'était important parce que lui, ça le nourrissait dans sa politique. Il l'a très bien dit, d'ailleurs. Mais sauf qu'en fait, ce qui est triste, c'est qu'il y a 2,3 millions de personnes qui ont signé une pétition qui s'appelle l'affaire du siècle, qui intente un procès en justice à l'État pour une inaction climatique. Et en fait, à ce moment-là, on a attendu une réponse du gouvernement, qui a été attendue pendant 60 jours, comme le disait encore Cécile Duflot récemment, lors de différentes prises de parole. Et en fait, ça a été une non-réponse, c'est-à-dire que le gouvernement a annoncé clairement qu'il ne changerait pas de cap sur la question environnementale, donc qu'il continuerait à condamner des personnes en France au quotidien et pas qu'en France. Voilà, ça c'est la première chose, pour remettre un peu un contexte. Et du coup, à ce moment-là, il y a ANVCOP21 et d'autres collectifs qui réfléchissent et qui se disent, les citoyens ont fait leur travail, ils ont fait de l'information, ils ont fait des marches pour le climat dans tous les territoires, ils ont signé une pétition, ils ont posé une question signée par 2,3 millions de personnes au gouvernement, et le gouvernement donne une non-réponse. Donc à ce moment-là, d'une certaine manière, le gouvernement nous dit, nous on va rien faire, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et du coup, nous, on se saisit de ça. Et en fait, on se dit qu'on va aller décrocher des portraits d'Emmanuel Macron. Étant donné qu'il y a un vide complet de sa politique climatique, on va retirer le portrait d'Emmanuel Macron des mairies pour symboliser, justement, avec l'absence de ce portrait, le vide de sa politique climatique. Donc, c'est une action qui, effectivement, est très symbolique, dans le sens qu'on décroche juste une photo d'un mur. Mais qui par contre est venu piquer au vif du coup le gouvernement et a entamé directement une répression. Et du coup la question qu'on peut se poser c'est de se dire aujourd'hui il y a 57 personnes en procès, 17 procès qui vont avoir lieu ou qui ont déjà eu lieu, 95 domiciles qui ont été perquisitionnés. Du coup la question qu'on se pose c'est comment ça se fait qu'il y a une énergie incroyable qui est mise pour condamner des personnes, alors que pendant ce temps-là, il y a réellement des personnes qui sont en train de mourir du dérèglement climatique, que ce soit actuellement dans les Bahamas avec l'ouragan, que ce soit cet été en Inde avec les émeutes climatiques, ou que ce soit actuellement en Amérique du Sud avec la forêt amazonienne, qui est une seule forêt qui cache d'ailleurs toutes les autres, parce que c'est loin d'être la seule en flamme actuellement sur la planète.
Oui.
et donc, justement, comme toi, tu as été tu as eu ton procès
le 2 septembre.
Et justement, est-ce que pendant le procès, dans la discussion, elle a entendu cette question de l'urgence climatique avec laquelle le gouvernement devrait être d'accord?
Alors, c'est, du coup, à mon sens, elle a dû être entendue de deux manières différentes. Déjà parce que pendant ce procès qui a eu lieu du coup, le 2 septembre, donc où Fanny et moi, on a été jugés pour vol en réunion. Donc juste pour l'anecdote, le portrait coûte 8,90 € sur la boutique de l'Elysée. Hein, tout le monde peut avoir une photo d'Emmanuel Macron chez lui. Par contre, nous, on risquait 75 000 euros d'amende et 5 ans de prison en peine plafond. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà ce jour-là, les équipes de Alternatiba, ANV, avec le soutien de Youth for Climate, avec le soutien de d'autres collectifs, et puis même des soutiens de citoyens, citoyennes, ont organisé le procès de l'inaction climatique du gouvernement. Donc, qui a réuni près de 5000 personnes toute la journée sur la place Guichard. Voilà. Donc déjà, on a pu faire passer ce message de l'inaction climatique du gouvernement. Et puis ensuite, à l'intérieur du tribunal, on avait du coup deux témoins choisis. L'une d'elles était du coup Cécile Duflot, ancienne ministre, ancienne députée et actuelle directrice générale de Oxfam France. Et à côté de ça, on avait Wolfgang Kramer, scientifique au GIEC, qui publie régulièrement des rapports sur l'urgence climatique. Et du coup, dans le tribunal, on a pu nous parler, Fanny et moi, des raisons qui nous ont poussé à faire cette action. Et Cécile Duflot, ainsi que Wolfgang Kramer, ont pu également être entendus. Et du coup, maintenant, on attend le délibéré. Il y a une réquisition de la procureure de 500 euros d'amende. Nous, on espère une relaxe, parce que symboliquement, ça signifierait que le pouvoir juridique se met en butée face à l'exécutif. Et c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'une manière cachée de reconnaître qu'il y a une urgence climatique et qu'effectivement, toutes celles et ceux qui se mettent en action sont légitimes.
Donc la raison, elle a quand même été entendue.
Elle a été entendue. On verra si elle est entendue jusqu'au bout et qu'elle mène à un choix fort de la part du juge. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu d'autres procès ailleurs, des peines requises plus lourdes, des amendes plus lourdes?
Alors, on est sur le même ordre d'idée, grosso modo. À Bourg-en-Bresse, il y a eu 500 euros d'amende avec sursis et 250 euros ferme pour un des militants. Mais du coup, le procureur a estimé que ce n'était pas suffisant, il a fait appel. Donc on vous donne rendez-vous début 2020 devant la cour d'appel de Lyon pour le procès en appel des 6 militants de Villefranche-sur-Saône. À Strasbourg, c'est un cas particulier parce que le portrait a été rendu. Et du coup, ils ont obtenu une relaxe, mais parce qu'en fait, étant donné que le portrait a été rendu, le vol ne pouvait pas vraiment être avéré. Il y a un portrait qui a été, il y a un procès qui a été reporté. C'est le procès de Bonneville qui aura lieu ultérieurement, du coup, du côté de la Savoie, Haute-Savoie. Et enfin, hier, on avait surtout un procès qui relevait de l'absurde. C'est-à-dire qu'il y avait 9 militants et militantes de Paris qui étaient jugés devant la chambre antiterroriste. Et du coup, on touche aux limites de l'absurde. C'est-à-dire que c'est qu'on se retrouve avec une réquisition du procureur de 1000 euros d'amende, dont 500 euros ferme. Et on se dit, mais à quel moment, enfin, ce qu'il aurait fallu ce jour-là, enfin, en tout cas, là je parle en mon nom, mais c'est la chambre du terroriste aurait dû se replacer dans son rôle en disant, mais nous, déjà, on va annoncer une relaxe, parce qu'effectivement, il y a une urgence climatique, mais en plus de ça, nous, on a autre chose à faire, parce qu'effectivement, il y a peut-être des dangers par rapport au terrorisme, et pendant que vous nous faites juger des personnes qui se bougent pour le climat, on ne peut pas s'occuper d'autres choses qui peuvent arriver. Et du coup, voilà, on était vraiment aux limites de l'absurde hier dans cette chambre antiterroriste de Paris, où 9 citoyens et citoyennes étaient jugés.
En fait, dans le cas des actions militantes, que ce soit pour l'environnement ou pour d'autres sujets, hein, je ne vais pas les évoquer ici, mais on s'aperçoit qu'il y a une débauche, je trouve, hein, enfin une énergie qui est, côté répression qui est déplacée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une disproportion, une réelle disproportion entre la qualification de... Voilà, et l'énergie et les moyens qui sont donnés dans la répression. Parce que c'est enquête policière, perquisition, ensuite c'est effectivement la justice, enfin, la mise en branle d'un procès, etc. Et tout ça, je veux dire, pour des actions qui sont citoyennes, non violentes, et qui font écho en fait à l'inaction, ou des fois à l'illégalité d'actions entreprises par les gouvernements. Donc on a une disproportion aujourd'hui, et on parlait d'accélération tout à l'heure, et je trouve que depuis un an, deux ans, alors je ne sais pas si c'est l'effet Macron avec c'est pas la répression en marche ou quoi, mais je trouve qu'il y a une accélération aussi de la répression des actions citoyennes dans différents domaines. Et donc aujourd'hui, bon, bien sûr, hein, qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'urgence climatique. Voilà. Donc, et je suis pas sûre que les citoyens, enfin, voilà, nos voisins, etc., comprennent ça et bien en tête cette accélération d'une répression et d'une utilisation aussi de moyens disproportionnés par rapport à d'autres, effectivement, peut-être d'autres difficultés, le terrorisme, etc., la qualification quand même. Faire passer quand même des activistes militants environnementaux pour des terroristes. Alors, c'est pas tout à fait ce qui est dit, mais quand même, on donne des moyens qui sont quand même inadaptés.
Et la priorisation des moyens, on a aussi le constat de difficultés en termes de moyens, que ce soit dans la justice et dans la police. Donc, la priorité, c'est pas forcément d'aller faire des procès de ce type-là.
Ouais. Et nous, on le voit même, enfin nous, jeunes pour le climat, quand on a fait des actions, notamment là cette année, où en fait, il y a juste eu un moment où tu parles d'accélération, et nous, c'était vraiment ça. On s'est dit, bon, bah, ils font rien, bah, nous, on va faire ce qu'on pense être bien. Et on a eu une action qui est toujours en cours, d'ailleurs, enfin, on continue de faire, qui est d'aller peindre des pistes cyclables là où il devrait y en avoir, dans Lyon. Et donc, on a eu plusieurs jeunes qui se retrouvaient en garde à vue pour ça. Qui subissent des interrogatoires, qui restent pendant plusieurs heures en garde à vue. On parle de jeunes qui ont 15-16 ans et qui vont se retrouver pendant quelques mois avec quelqu'un qui va les suivre tous les jours pour savoir s'ils font bien leurs devoirs. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est pas des jeunes à problème, en fait. C'est des jeunes qui ont envie de se bouger, et au contraire, c'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir de problème. Enfin, moi, je me rappelle de moi il y a un an, je me serais jamais dit bon, bah, je vais aller faire une action de désobéissance civile, sauf que en fait cette année, par les différentes marches, par tout ce qui se passe, je me suis rendu compte que si, en fait, bah, pourquoi pas, pourquoi je le ferais pas. Enfin, quelles sont les raisons qui feraient que je resterais chez moi à rien faire, alors que j'ai la possibilité de faire des choses assez simples comme aller peindre des pistes cyclables, qui dérange personne. D'ailleurs, même, on est généralement applaudi par les cyclistes et par les voitures. On réfléchit à ce qu'on fait, c'est-à-dire que ces actions-là, on les fait dans des endroits où il n'y a pas encore de pistes cyclables, où il devrait vraiment y en avoir. Et en fait, nous-mêmes, on ressent cette violence d'une certaine manière. Vous parlez de répression, mais c'est vrai que enfin, il y a quand même quelque chose, une notion quand même de violence.
Est-ce à dire que effectivement la prise de conscience doublée d'action finalement fait peur et que du coup eh bien on agit, alors on va parler de répression ou d'intimidation, hein, on pourrait parler des deux, et que finalement on est confronté à cela aujourd'hui de manière peut-être plus radicale de la part du gouvernement, quoi.
Oui,
et des actions mises en place, hein, par la justice, police, etc. Parce que la disproportion des moyens alloués face comme ça à des actions, je pense que c'est aussi une manière d'intimidation d'intimider finalement la poursuite des actions.
En tout cas, je n'ai pas l'impression que ça marche, vu le soutien qu'il y a eu, le nombre de personnes qu'il y avait, serait-ce que le 2 septembre, le nombre de personnes qui vous rejoignent.
Oui, parce qu'en fait, on est aussi à un moment où finalement, les gens se rendent compte que l'action, même si elle est réprimée, et même si effectivement on est à l'inverse de ce que les lois imposent aujourd'hui, elle est nécessaire. Et en fait, il y a un moment où, moi, je n'ai jamais pensé me rebeller contre la société dans laquelle j'étais, mais là, il en attend à la biodiversité, au monde que j'ai autour de moi et que j'ai envie de conserver. Et en fait, c'est pas parce qu'il y a une loi ou certaines personnes qui disent que non, t'inquiète, ça va bien se passer, genre on va juste continuer à utiliser tout ce qu'on peut et à tout détruire. Enfin, il faut bien que nous, on arrive à trouver notre place là-dedans et à essayer d'aller à contresens. Et c'est vrai que même si l'intimidation fait peur, elle est en tout cas pas très utile à mon avis, parce qu'elle est instigatrice d'encore plus de volonté de changement, finalement. En tout cas, enfin, moi, c'est ce que je vois chez les jeunes.
Florent, tu voulais dire quelque chose ? Après, on fera une petite pause musicale.
Oui, non, mais c'est juste ces procès qui nous tombent dessus. On essaye de les retourner la répression, faire un effet boomerang un peu pour que cette répression, elle nous serve, pour faire parler de nous, et surtout pour montrer le deux poids, deux mesures de la justice, comme on en parlait à l'instant. Et notamment parce que ANV COP 21 s'est créé à l'occasion de la COP 21, il y a eu un accord de Paris qui a été ratifié et l'État français s'est engagé à travers cet accord à maintenir sous la barre des 1,5 degré, et nous, ce qu'on vient juste dénoncer, c'est, on leur demande pas de faire des choses incroyables, on leur demande juste de tenir les engagements qu'ils ont pris à ce moment-là et pour lesquels on mériterait d'avoir toute cette débauche d'énergie, que ce soit de la justice, que ce soit du judiciaire, d'aller chercher les gens qui justement empêchent de tenir ces engagements-là. Et au lieu de ça, on va, comme on le fait sur d'autres sujets, mais on va taper sur les lanceurs d'alerte qu'on est, qui sommes juste là pour dire, regardez, on a pris des engagements, on savait à quoi on s'engageait, et aujourd'hui on vient nous réprimer, nous qui ne faisons que rappeler à l'État ses engagements, quoi.
Et sa responsabilité.
Sa responsabilité et la loi. Enfin, ça a été ratifié, donc c'est dans la loi. Et on aimerait que la justice fasse le même travail contre l'État et lui impose de faire ce qui est nécessaire pour que nos enfants puissent avoir un monde dans lequel il est encore possible d'avoir de l'eau sans qu'il y ait des émeutes, comme il y a eu en Inde cet été. Et aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Et c'est ce qu'on dénonce à travers toutes nos actions.
On fait une pause musicale ?
Opprimé de tout pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie. C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais, quand on est uni. On est invincible et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre. Un feu invincible, c'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre. On est invincible, ne crois pas que je t'engraine. On fait partie de la solution, partie du problème. On est invincible. Tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève.
balance une bombe de grêle, symbole de résistance, en espérant qu'elle germe, surtout dans les consciences. Une idée qu'à plusieurs, on est plus fort peut-être. On laisse parler le cœur, alors ni Dieu ni maître. Il est temps d'agir, et le futur est fragile. À l'heure où l'humain scie la branche sur laquelle il est assis, entend les idées qu'on affiche. Bientôt les pauvres n'auront rien d'autre à manger que les riches. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit. Et quand tout est réuni,
on est invaincu.
Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre.
Un feu invincible.
C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre.
On est invaincu.
Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème.
On est invaincu.
Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève.
Descendre dans la rue pour y chanter la délivrance, en somme, y défendre la nature et le respect du vivant. On veut construire l'entraide, tenter l'autogestion. Vous avez les milliards, mais nous sommes des millions. Réouvrons les frontières, laissons passer les hommes. Reprenons le pouvoir par tout ce que l'on consomme. Pour les valeurs de partage dans lesquelles on se cloître, nous sommes de ces vieux arbres impossibles à abattre. L'amour, l'envie, le corps, l'esprit. Et quand tout est réuni,
on est invaincu.
Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre.
Un feu invincible.
C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre.
On est invincible.
Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème.
On est invincible.
Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève.
On tournait dans ce pays, dans une vie qu'on n'a pas choisie, à courir après l'utopie.
C'est quand on s'entretue qu'on est faible, tu sais quand on est uni.
On est invincible.
Puisque nous sommes le peuple et qu'on est tenu à l'écart, qu'il est temps de redistribuer les cartes. Prêt à dresser des barricades, éloignez-vous de Jerican. Ici, il n'y a de place que pour un combat véritable. Faut qu'on s'organise et qu'on s'unisse pour qu'on rivalise, qu'on résiste aux idées du capitalisme. Puisqu'on est sur le terrain et que c'est notre premier atout, on construira des ZAD partout. ZAD partout.
On est invincible.
Et on n'a rien à craindre. Je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre.
Un feu invincible.
C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous vaincre.
On est invincible.
Ne crois pas que je t'entraîne. On fait partie de la solution, partie du problème.
On est invincible.
Que tous les points se dressent. Le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève.
Voilà, c'est reparti. Car tu voulais compléter ce qui venait d'être dit, il me semble, hein, par Florent sur...
Oui, bah déjà on vient d'écouter du coup Calune avec son morceau Invincible. Du coup, Calune du groupe Calune, qui est composé de Damien et d'Anaïs et qui sont des soutiens artistiques, musicaux et militants depuis déjà plusieurs mois et plusieurs années. Voilà. Et puis très rapidement quand même, pour clôturer un peu cette thématique sur la répression au niveau de la campagne de décrochage. En fait, comme on le disait, on marche sur deux jambes, la désobéissance civile et les alternatives. Et en fait, en même temps qu'on décroche des portraits, en fait, on a quand même trois revendications majeures qui ont d'ailleurs été en partie, qui sont des revendications similaires à celles qu'a porté Extinction Rebellion en Angleterre. Et les trois revendications, c'est une, ce que disait Flo, c'est-à-dire juste, en fait, on demande juste à M. Macron de tenir ses promesses, ce qu'on demande à n'importe quel enfant lorsqu'il a 10 ans. Voilà. Ni plus ni moins, donc c'est-à-dire un alignement sous la barre des 2 degrés de dérèglement climatique. Le deuxième chose, c'est un discours de vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement dit plein de beaux mots sur le climat, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le dérèglement climatique ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur des gens qui n'arrivent pas à se chauffer, bah, c'est les conséquences du dérèglement climatique. Donc on veut un discours de vérité sur quelles sont les conséquences pour les 66 millions d'habitants de la France et au-delà. Et enfin, un accompagnement social, c'est-à-dire en fait que la transition énergétique, le dérèglement climatique les plus touchés, bah, c'est les populations pauvres, c'est les personnes qui sont au chômage, c'est les personnes qui n'ont pas des revenus importants, c'est les personnes qui habitent en périphérie, dans les banlieues et ainsi de suite. Et du coup, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens de faire les travaux pour avoir des bâtiments isolés et ainsi de suite. Et du coup, ce qu'on demande, c'est un accompagnement social. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est des budgets qui sont alloués pour former des artisans qui vont pouvoir ensuite rénover des logements. Donc ça fait quoi ? Bah, ça permet de rénover des logements et en même temps, ça permet de créer des nouveaux emplois. Et voilà, les trois revendications, du coup, c'est rester sous la barre des 2 degrés, un discours de vérité et un accompagnement social de la transition énergétique et écologique.
On va juste dire que les portraits de Macron ont été présentés là tout dernièrement dans le cadre du contre G7, on peut dire ça, qu'ils ont été montrés, voilà, et qu'on les a vus la tête en bas.
Ouais, c'était un objectif de les faire ressortir, ces portraits, pour
ils n'ont pas disparu, mais...
Non, ils sont réquisitionnés pour le moment et on les rendra le jour où l'État prendra les mesures qui s'imposent à la hauteur du dérèglement climatique, on va dire. Mais c'est un des objectifs derrière aussi ces décrochages de portraits, c'est laisser du vide, mais aussi refaire sortir ces portraits pour dénoncer tous les grands projets climaticides qui sont encore en cours et qui ne vont pas dans le sens de l'histoire. En fait, aujourd'hui, l'histoire, le GIEC nous raconte l'histoire qui va arriver. Et aujourd'hui, bah, quand on voit certains projets comme l'anneau des sciences à Lyon, hein, mais ça peut être aussi le grand contournement à Strasbourg ou des grands centres commerciaux dans la banlieue parisienne, ben, c'est pas des projets qui doivent encore avoir lieu et cet argent il devrait être investi ailleurs. Et donc
l'installation d'une plateforme Amazon
par exemple, n'est-ce pas ? Et l'objectif c'est de refaire sortir ces portraits un peu symboliquement aussi pour montrer à Macron, regarde ce qui est en train de se passer alors que t'es censé avoir pris les mesures nécessaires pour suivre l'accord de Paris.
Pierre, tu parlais de solidarité aussi. Hein. On n'est pas contre le dérèglement climatique sans parler aussi justice sociale, solidarité, et puis aussi lutte contre tout ce qui est gaspillage. Alors, je parlais tout à l'heure des bauches d'énergie, des moyens publics mis en œuvre dans la répression de l'intimidation, mais aussi tout le gâchis qu'il peut y avoir dans l'alimentaire. Et puis la publicité, moi je viens, parce que pour moi, la publicité fait partie des domaines qui représentent un financement important, qui pourrait servir à autre chose, effectivement, mais qui sert aussi à l'alimentation d'un système qui s'auto... qui implique toujours plus de consommation et de gâchis, du coup. Hein. On est dans ce système-là avec la publicité, et donc c'est important de parler de cette action anti-pub.
Oui, tout à fait, surtout qu'on est à Lyon, parce que donc notre mouvement il lutte à la fois à l'échelle internationale, parce que le dérèglement climatique c'est quelque chose qui se passe à l'échelle mondiale, mais on est aussi dans... Enfin, l'action qu'on peut avoir, elle est aussi au niveau local, et donc et c'est important qu'on se batte au niveau local aussi, et à Lyon, ça passe par l'anti-pub notamment. L'anti-pub où on vient plus en soutien qu'en tant que collectif qui apporte des choses, parce qu'à Lyon on a 2 collectifs qui sont très très investis sur ces sujets. C'est le collectif Plein la Vue qui va bientôt avoir 2 ans et qui lui pour le coup fait du plaidoyer depuis 2 ans sur le sujet du RLPI qui est, je vais essayer de le faire rapidement, mais le règlement local de publicité intercommunale, donc qui est un règlement qui va s'appliquer sur toute la métropole de Lyon, donc les 58 communes de la métropole de Lyon, et qui va légiférer sur la densité publicitaire et les dispositifs publicitaires qui sont autorisés ou non. Et à travers ce règlement, et ben en fait c'est la place qu'on veut faire à la publicité dans l'espace public qui va être définie. Et donc Plein la Vue lutte depuis 2 ans pour montrer l'incohérence qu'il y a à rajouter toujours plus de pubs, parce qu'aujourd'hui ce que nous propose la métropole via ce RLPI, c'est de mettre des panneaux publicitaires numériques, comme on voit déjà dans le métro, mais qui est un espace privé, donc là c'est plus difficile, mais en tout cas, sur l'espace public, elle veut rajouter des panneaux numériques. Quand on sait ce que c'est un panneau numérique, encore une fois, à contre-temps de l'histoire, RTE, le distributeur d'électricité, dit lui-même que ces panneaux numériques, si on devait choisir dans la direction pour aller vers une sobriété énergétique en termes d'électricité, ces panneaux numériques seraient les premières choses qu'il faudrait enlever et ne pas alimenter, parce que ça consomme l'équivalent de 4 personnes sur un an. Un foyer de 4 personnes consomme autant d'électricité qu'un panneau numérique. À un moment où on nous dit que les centrales nucléaires vont devoir tourner plus doucement parce que avec la sécheresse, l'eau refroidit moins vite les centrales. Enfin, on est à contre-temps complètement de l'histoire, et par des pressions, des lobbies qu'on connaît très bien, JCDECO à Lyon, la métropole propose dans son plan, dans son règlement local de publicité intercommunale, de mettre des panneaux publicitaires numériques partout dans les rues, sans parler même des dangers des écrans, enfin, il y a plein de choses. Voilà. Ce sujet, en plus, il est central, comme tu le disais, parce que la publicité, c'est ce qui nous incite à consommer, surconsommer, toujours plus, et consommer pas local, parce qu'encore, si c'était pour faire la promotion, on pourrait en rediscuter, sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que 80% de l'espace publicitaire, il est dédié à 0,0002% des entreprises, celles qui sont déjà suffisamment riches et qui sont les piliers du système qu'aujourd'hui on dénonce aussi. Et donc, cette publicité, nous, on veut voir la pression publicitaire diminuer dans nos rues. Et donc, plein la vue. Pour y revenir, fait du plaidoyer auprès de la métropole pour leur expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée de le faire. Et à l'image de Grenoble, désengorger les rues de la publicité, c'est possible. Grenoble l'a fait. Mais est-ce que, puisque ça ne fonctionne pas seul, il y a le pendant un peu ANV de l'antipub qui s'appelle RAP, la résistance à l'agression publicitaire, qui fait des actions non violentes aussi de recouvrement. Donc qui va recouvrir les panneaux publicitaires avec des messages ludiques et drôles en général pour que les gens réagissent et se rendent compte de l'espace que prend la publicité, de ce qu'elle incite à consommer toujours plus, à manger mal, enfin, on ne reviendra pas sur les messages de la pub. Mais en tout cas, nous, dans ce cadre-là, on a appuyé, on va dire, ces deux associations anti-pub avec ANV. Et ce qui s'est passé, c'est donc que, pour refaire un tout petit historique, le 16 mars dernier, il y avait une marche pour le climat qui a été celle qui a le mieux marché à Lyon. On était entre 30 et 40 000 dans les rues, avec une arrivée à la métropole, et lors de cette arrivée à la métropole, on avait prévu une action de désobéissance civile pour faire comprendre à la métropole que cette publicité, on n'en veut pas, et on avait incité les gens à nous accompagner, à recouvrir la métropole d'affiches publicitaires, donc à coller sur les murs de la métropole avec de l'eau et de la farine, pour préciser, parce qu'on est écolo quand même. Et ça ne s'est pas très bien passé. Il y a un mur qui a été fait, mais le deuxième, on a vu des enfants se faire gazer parce que ben, voilà, les parents allaient avec leurs enfants participer à ce collage pour dénoncer cet espace que prenait la publicité. Et là, on a vu des policiers, avec la répression toujours qu'on connaît, gazer n'importe comment. Et tout le monde, enfin moi j'ai vu des dizaines et dizaines de personnes pleurer, et des enfants qui ressortaient de là. Enfin bon, c'était assez effroyable comme image. Et donc cette action qui avait plutôt bien marché, mais qui nous laissait un peu sur notre faim, on lui a fait une réponse en fait, parce que donc, dans la semaine qui a suivi ce 16 mars, le jeudi, il y avait une conférence publique de la métropole qui présentait le RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunale, qui le présentait dans son état, dans l'état actuel où il était, et où il nous annonçait à nouveau que donc, les panneaux numériques seraient présents, et que les bâches publicitaires qu'on voit de partout sur les bâtiments, on les a tous vus place Bellecour, et d'ailleurs, peut-être que Laurent pourra nous parler un peu, parce qu'il y a eu des actions de Youth for Climate pour dénoncer sur ces bâches-là. Mais donc, ils nous ont annoncé tranquillement que rien ne changerait à ce niveau-là, et que du coup, la densité publicitaire allait s'intensifier. Et à ça, ben, le dimanche qui a suivi, qui était le jour international contre la publicité, où Plein la Vue faisait une manifestation et un village place Mazagran pour dénoncer la publicité et sensibiliser les gens. Nous, on est retourné à la métropole, coller 200 affiches sur le devant de la métropole pour dénoncer, enfin, et dans un sens symboliquement, rendre à la métropole la publicité qu'elle nous envoie toute la journée à travers tous ces panneaux et l'espace qu'elle laisse à la publicité et qu'elle veut donner encore plus grand. Et donc on a fait ça, et suite à ça, dans cette action, il y a Alex, un de nos militants, qui est un militant anti-pub aussi, qui s'est fait arrêter, qui a fait 26h30 de garde à vue, et qui passe en procès donc le 7 octobre. Et ça va être l'occasion, comme pour les procès des décrocheurs de portraits, d'utiliser cet effet boomerang de la répression, de montrer le deux poids deux mesures, de on dénonce quelque chose avec des actions non violentes très symboliques, et la répression s'abat sur nous de manière spectaculaire. Et ce sera donc le lundi 7 octobre, et en plus on a la chance d'avoir le 5 et le 6 octobre, donc le week-end d'avant, l'AG nationale de rap, donc la résistance à l'agression publicitaire, pendant lesquelles, les après-midi, il y aura des ateliers de sensibilisation sur les sujets de la pub, parce que c'est souvent un sujet que les gens comprennent mal, le côté, la publicité, en quoi c'est si important, et pourquoi lutter contre la pub, c'est lutter pour un meilleur système et pour quelque chose de climatiquement soutenable, disons. Et donc, on va avoir ces trois jours qu'on essaie de construire encore pour sensibiliser et montrer toujours ce côté répression qui est insupportable.
Donc, on peut prendre rendez-vous dès maintenant pour le 7 octobre.
Il y a d'autres rendez-vous avant dont on reparlera, mais oui, le 7 octobre et le 5 et le 6, donc pour l'AG de rap avec l'après-midi des ateliers, oui. Mais on va communiquer là-dessus, les gens seront au courant, mais réservez vos agendas.
Alors, je voyais Laurane qui acquiesçait aussi sur la difficulté d'expliquer en quoi la publicité est quand même un élément de facteurs à la fois de pollution, d'inégalité, enfin, participe finalement à la pérennité d'un système.
Oui, exactement.
C'est du système capitaliste.
Ouais.
Et qui fait des choix.
Et nous, c'est vrai que, comme tu le disais, on avait cette action qu'on a fait cet été au mois de juillet sur la place Bellecour. Il y a donc des immenses bâches publicitaires qui c'est vraiment immense, quoi. Ça prend toute une façade d'immeuble. Donc, on avait vraiment la volonté de prouver qu'en fait, n'importe qui pouvait recouvrir ça. Parce que, il y a aussi ce truc chez Youth for Climate de dire que on n'a pas de moyens, on n'est pas encore hyper organisé, mais en fait, quand on veut faire quelque chose, on y arrive. Et donc là, juste le fait d'avoir été vraiment énervé d'avoir ces pubs qui sont là tout le temps et en fait juste qui devraient pas être là, parce que quand on est sur la place Bellecour, on a juste pas envie en fait d'avoir une pub Nike ou Huawei ou peu importe ce que c'était, et parce qu'on devrait pas penser à ça en fait, on devrait juste laisser les gens pouvoir réfléchir à ce qu'ils ont envie de réfléchir. Et donc en fait ce qu'on a fait, c'est juste de dire ok, de quoi on a besoin. On a besoin de gros métrages, donc on va prendre du tissu. On va tout coudre ensemble, parce qu'on on avait des gens qui savaient le faire. Et on va se motiver à peindre des messages en mettant... on avait juste marqué « Nous soulageons vos beaux yeux », parce que ça nous paraissait quelque chose d'un peu simple et qui ferait plus sourire les gens et au moins qui les ferait réaliser que ce qu'ils ont l'impression de faire partie du paysage ne devrait juste pas y être, parce que c'est un énorme panneau blanc ce qu'on avait mis. Donc là, pour le coup, on le voyait bien. Et donc, c'est vrai que... Cette action, on était vraiment tous d'accord à l'intérieur du collectif de Lyon pour la mener et essayer de prouver, comme je le disais tout à l'heure, qu'en fait, tout le monde peut réussir à se mettre en action et à pouvoir lutter contre les choses qu'il n'a pas envie d'avoir sous les yeux. Et la publicité, enfin moi j'ai grandi avec, j'ai grandi en regardant la télé et en ayant ces chansons de pub qui ne partent pas en grandissant et en fait on nous apprend pas à réfléchir à ce que ça implique. J'ai mis tellement de temps avant de comprendre que la publicité, ça, il y a des raisons pour lesquelles ça reste tant en tête. C'est des choses qui sont pensées et qui sont là pour nous faire réfléchir d'une certaine manière, et en fait ça devrait juste pas être comme ça.
La publicité, on pourrait parler, il y aurait de multiples sujets, je pense aussi à l'éclairage, l'abondance d'éclairage, peut-être aussi la surabondance d'éclairage, même s'il y a des dispositions normalement réglementaires qui doivent être suivies. Il y a des choses qui se passent quand même. Il y a des communes qui décident, par exemple, d'éteindre leur éclairage la nuit, à partir de minuit, par exemple, etc. Il y a quand même, je pense qu'il faut quand même dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a des prises de conscience. C'est pas facile, même, y compris pour des maires. Là, on parlait de la métropole, mais on sait que d'autres maires, par exemple, ont essayé de prendre des dispositions sur les pesticides, enfin... Quand on parle de quand on reste dans le sujet de l'environnement, et que c'est pas facile, quoi, parce que soit ils se heurtent effectivement à des lobbies qui les dépassent, l'agroalimentaire, l'industrie, pas que, la publicité en fait partie, bien sûr, c'est tout un pan de l'économie non négligeable, donc ils sont confrontés à des lobbies, et puis aussi à une forme de rigidité de l'administration qui est en retard quelquefois sur des dispositions simples. Pourquoi mettre un maire qui a pris un arrêté devant le TA, quoi, enfin je veux dire, ça c'est le choix du préfet, après tout, en quoi c'est gênant quand, voilà, lui, il prend un arrêté de disposition dans le terme, en termes de sécurité, sécurité publique,
c'est
voilà, sanitaire.
C'est aussi un manque d'information, en fait. C'est les gens ne... Enfin, tu parlais de la question d'éteindre assez tôt les vitrines, les éclairages. En fait, il y a aussi un bon nombre de magasins qui ne le font pas parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique, ou alors ils le font tout à fait consciemment, mais dans ce cas-là, c'est pire. Mais enfin, avec Youth for Climate, c'est pareil, on fait énormément d'opérations luciole où on va éteindre en fait les choses qui devraient être éteintes la nuit. Et c'est aberrant de voir que les gens ne savent pas forcément.
Alors, vous avez 5 minutes pour nous parler des prochaines mobilisations, des choses qui vont venir se passer, qui vont venir aussi peut-être conscientiser nos esprits, puis nous bousculer un peu aussi dans nos habitudes et dans notre confort. Il faut le dire, ça sert à ça aussi, tous vos actes symboliques, c'est nous bousculer. Alors, je ne sais pas, pour les jeunes, Alternativa, quelles sont les prochaines mobilisations prévues là?
Nous, on a un mois de septembre qui est très, très, très rempli avec Youth for Climate. Je vais essayer de ne pas prendre les 5 minutes. on a donc rien que cette semaine la participation aux Graines électroniques ce week-end, qui est donc un festival qui essaie de ne pas avoir d'impact écologique dans tout ce qu'il propose. Et donc, on va faire un débat là-bas. On a une action d'Extinction Rebellion le dimanche, à laquelle on a été invité et tout le monde a invité à participer à cette action. On a à partir de la semaine prochaine, on va dire tout s'accélère, puisqu'on a la troisième grève mondiale pour le climat qui va avoir lieu le 20 septembre et on espère avoir autant de monde qu'à celle du 15 mars. Parce qu'en fait, la mobilisation ne doit pas faiblir. Les gens doivent se rendre compte que, en fait, se mobiliser, c'est aussi créer un rapport de force avec le gouvernement et qu'il est temps de le faire. Et donc, voilà, on appelle vraiment à une forte mobilisation en ce 20 septembre. Il y aura plein d'associations qui travaillent avec nous. On travaille avec Long Climat sur les journées du 20 et du 21 pour que les deux soient vraiment liés et qu'on comprenne qu'il y a toutes les interorganisations vont dans le même sens, et ça c'est très important. On est tous dans le même combat, on s'en est rendu compte là pendant nos discussions. Et donc après, on a cette grève pour le climat du 20 septembre, elle entame la Week for Future, donc la semaine internationale d'action pour le climat, où à Lyon, on a décidé de travailler sur une thématique par jour et de mettre en fait à profit toute cette interorganisation lyonnaise qui est quand même énorme, avec des syndicats, des collectifs. Et en fait, on les a tous appelés à nous rejoindre pour chaque jour réfléchir sur une thématique. Et donc vous pourrez retrouver le programme sur Facebook, sur le site de Youth for Climate Lyon. Et donc voilà, je vais laisser la parole à vous.
Non mais ouais, c'est super, parce que nous, de toute façon, on est en support sur toutes ces actions-là, parce qu'elles vont dans le sens qui nous semble évident, quoi, faire du lien. Alternativa s'est créé pour faire des villages associatifs où le but c'était de faire du lien entre toutes les associations. Donc là, on est carrément là-dedans et voir que c'est les jeunes qui le font. Et c'est encore, enfin, je pense qu'il y a un message encore plus fort chez les jeunes, le fait de dire ben, c'est notre futur. Les gens sont plus attentifs, je trouve, et donc c'est bien que les jeunes s'emparent de ce rôle-là. Et ensuite, ben, pour continuer à parler de l'agenda, oui, il y aura le 5-6 avec l'AG de RAP, 5-6 octobre, le 7 donc avec le procès d'Alex, militant anti-pub, Place Guichard. Et après, je pense que vraiment, oui, le focus qu'il y a à mettre là, c'est sur les journées du 20 et du 21. C'est quelque chose d'international, c'est la jeunesse qui se réveille, enfin, qui est réveillée déjà, mais qui...
C'est la rentrée de la jeunesse.
Non, c'est...
Qui nous interpelle, nous, un peu plus vieux.
Ouais, c'est ça.
Non, mais c'est important de dire.
Non, mais c'est ça.
Et le 28, quand même, un petit point dont on n'a pas beaucoup parlé sur la pollution de l'air, mais le 28, ce sera la première expérimentation de la piétonnisation de la presqu'île à Lyon, ouais, qui est une de nos victoires de l'année dernière, avec une grosse mobilisation qu'on avait faite sur tout le mois de janvier. Et donc, on sera là au rendez-vous, même si aujourd'hui, on voit que la presqu'île, on met des bacs à fleurs sur les voies de bus et les voies cyclables, donc on se demande où est la logique, mais bon.
Ouais. Voilà, donc on va laisser la place à Pierre. Tu voulais dire quelque chose?
Merci surtout pour l'accueil et puis à très bientôt dès samedi, place Bellecour, à 10h30, pour une marche contre la végétalisation de la presqu'île telle qu'elle est menée par Gérard Collomb.
Ok. Et donc, on laisse la place à...
Quelle info?